Chapitre 17. Le tour de clé. Une semaine s'était à peine écoulée que Florent et Daniel avaient déjà organisé leur vie. Ils prenaient leur repas ensemble chez Madame Maugas. Le soir, un peu avant minuit, le peintre retournait citer Seurat. Le matin, il se levait très tôt et travaillait jusqu'à midi, M. Zivavizzi s'étant enfin décidé à organiser une exposition des œuvres de Florent. La seule ombre était que Daniel ne pouvait venir à l'atelier. À plusieurs reprises, le peintre avait remarqué qu'on le surveillait. Un jour même, et cela il avait caché à Daniel, ne voulant pas l'effrayer, un inspecteur d'une agence privée était venu lui proposer une somme de 100 000 francs s'il consentait à ramener Daniel avenue du président Wilson. Inutile de dire que Florent avait refusé avec indignation. Depuis, il avait redoublé de prudence. Quant à Daniel, elle se remettait doucement des émotions qu'elle avait éprouvées. Elle se levait tard. À chaque instant, Madame Maugas venait lui demander si elle n'avait besoin de rien. Elle répondait invariablement que tout était parfait. Vers 11 heures, Madame Maugas revenait encore dans la chambre de la jeune fille pour lui dire cette fois qu'elle pouvait disposer de la salle de bain. Sa toilette terminée, si Madame Maugas n'était pas sortie, elle la rejoignait dans le salon où cette dernière, inspirée sans doute par son hôtesse, jouait du piano. C'était alors une conversation qui durait jusqu'à l'arrivée de Florent et dont la famille Marondier était le principal sujet. Petit à petit, Madame Maugas en vint à donner des conseils à la jeune fille. « Je ne sais pas, disait-elle, si votre manière d'agir avec votre famille est très adroite. Il faudrait que nous demandions conseil à quelqu'un. Une de mes amies, vous allez voir comme c'est curieux, s'est trouvée dans votre situation. Comme vous, elle a voulu se marier sans le consentement de son père. » Le surlendemain, Madame Maugas laissa entendre que cette amie avait été malheureuse toute sa vie. « Ne croyez-vous pas, dit-elle finalement, qu'il serait plus sage de votre part de vous réconcilier avec les vôtres ? Quand on est jeune et quand on aime, on ne songe pas toujours aux questions d'argent, ou si on y songe, c'est pour les mépriser. Mais plus tard, on le regrette. Je ne veux pas être un rabat-joie, cher enfant. Cependant, je considère de mon devoir de vous prévenir. Vous voulez épouser un artiste. C'est très beau de votre part, mais vous ne devez pas oublier qu'il faut vivre. » Si c'est sur ce que gagnera mon fils que vous comptez, je crains que vous ne mouriez de faim tous les deux. L'amour et l'eau fraîche, je suis de celles qui croient que cela a existé, qui regrettent cet heureux temps. Je suis musicienne, sensible et prise d'idéal comme la vraie femme. Aussi, croyez-moi, je souffre plus que vous de notre époque. Aujourd'hui, on ne respecte qu'une chose, l'argent. La pureté et la finesse des sentiments, les jeunes gens s'en moquent bien. Il ne faut pas généraliser. Il en est comme mon fils qui sont des gentilshommes. Il y en aura toujours. Mais je parle de la majorité. C'est pour cela, ma chère enfant, que je ne saurais trop vous engager à reprendre contact avec votre famille, à ne vous marier que lorsque vous serez certaine d'être à l'abri du besoin, c'est-à-dire lorsque votre père consentira ce mariage. Oh, il n'est pas un si méchant homme que vous croyez. Quand il s'apercevra de la sincérité de votre amour, il sera le premier à vous approuver. » Quelques jours plus tard, Florent, à qui Daniel s'était bien gardé de répéter les propos de Madame Maugas, se doutant qu'il lui serait désagréable, s'en fut trouvé un avocat pour lui expliquer sa situation. Il en sortit très déprimé, l'avocat lui ayant dit que Daniel ne pouvait se marier sans le consentement de son père, à moins de faire à ce dernier une sommation par huissier, ce qui, il le savait, ferait beaucoup de peine à la jeune fille. Le soir, quand il rentra, pour comble de malchance, il trouva Daniel couché avec de la fièvre. Elle avait pris froid sans doute. En l'embrassant sur le front, il sentit qu'elle était brûlante. Ce fut en tête-à-tête avec sa mère qu'il dîna. Elle non plus n'était pas comme d'habitude. « Tu sais, dit-elle brusquement, que je commence à trouver votre situation à tous les deux ridicule. » Surpris par cette attaque, Florent ne sut quoi répondre. « Avec quoi vivrez-vous donc, je me le demande, quand vous n'habiterez plus ici? Ce n'est pas, je suppose, avec ce que tu gagnes. » « De toute façon, nous ne pouvons pas nous marier tout de suite. D'ici 3 mois, Zivavizzi aura organisé mon exposition. Il se peut, à ce moment, que je gagne beaucoup d'argent. » Tu es encore assez naïf de t'imaginer que tu gagneras de l'argent avec la peinture. La peinture a une valeur. La difficulté, évidemment, est de déterminer cette valeur. Mais une fois qu'on y est parvenu, il n'y a pas de raison qu'on ne gagne pas d'argent. Quand tu parles ainsi, Florent, tu m'agaces. Elle baissa la voix, prit un air complice. Tu as de la chance, continua-t-elle en désignant avec son pouce, par-dessus l'épaule, la chambre où reposait Daniel. Tu as de la chance que cette petite soit amoureuse de toi, et tu n'en profites pas. J'ai pris mes renseignements. Sais-tu à combien on évalue la fortune des Marondiers ? Je ne tiens pas à le savoir, cela ne m'intéresse pas. À une cinquantaine de millions, petit nigaud. Tant mieux pour eux. Laisse-moi finir. Mademoiselle Marondier a une dot. T'es-tu seulement préoccupée de savoir de combien elle était ? Je te répète, maman, que cela ne m'intéresse pas. Cette dot est de 5 millions. Si tu ne me crois pas, je peux te présenter à la personne qui m'a donné ces renseignements. Elle te les redonnera de vive voix. Assez, maman. Et c'est tout cela que tu t'apprêtes à balayer d'un revers de la main, alors que tu as tous les atouts de ton côté. Je ne suis pas un homme, mais si j'étais à ta place, je sais ce que je ferais. Je n'hésiterais pas une seconde. Au lieu de rentrer tous les soirs dans mon atelier glacial, je resterais bien au chaud chez ma maman. Puis, au bon moment, j'irai trouver M. Marondier, je lui expliquerai que quand on est jeune, on a des défaillances, qu'on ne sait pas toujours résister à la chair. Enfin, je saurai me faire comprendre. Florent était absolument bouleversé par ce langage. Comment sa mère, sa propre mère, pouvait-elle lui parler ainsi ? Il préféra ne pas répondre. Cela, poursuivit-elle, n'enlèverait rien au sentiment que tu peux avoir pour Mademoiselle Marondier. Au contraire, j'ai été jeune fille, et bien qu'il y ait longtemps de cela, je me souviens parfaitement que les preuves d'amour que ton père me donnait étaient autrement convaincantes que celles que tu donnes à Daniel. Mais passons là-dessus. Tu m'as comprise, j'en suis certaine. Je ne veux pas te comprendre, maman. Tu veux donc tout gâcher ? Je te préviens, des occasions comme celle-ci ne se présentent pas deux fois dans l'existence. Je m'étonne même qu'elles aient pu se présenter une fois en te regardant. Ah oui, je comprends. Vous voulez vous cacher tous les deux, vivre modestement dans un coin, jusqu'à ce que Daniel soit dégoûté de toi, qu'elle retourne dans sa famille, qu'elle demande le divorce. À ce moment, j'aime mieux te le dire, tu n'obtiendras rien. Tu auras beau faire, tu ne tireras pas un centime des Marondiers. Florent ne put en entendre davantage. Il posa sa serviette sur la table, sans la plier, se leva, toisa Madame Mougas. « Je me demande à certains moments comment je peux être ton fils, » dit-il avec solennité. Puis, sans attendre que sa mère répondît, il quitta la salle à manger et se rendit auprès de Daniel.
« Chérie, »
dit-il en s'agenouillant à son chevet et en cachant son visage entre la taille de la jeune fille et l'oreiller contre lequel elle était adossée. Troublée, elle lui caressa les cheveux de ses doigts minces et transparents. « Qu'avez-vous, Florent ?» Il ne répondit pas. Elle se souleva, lui prit le visage comme elle eût pris une coupe et le regarda longuement. « Racontez-moi » murmura-t-elle au bout d'un moment. « Ce n'est rien !» balbutia le peintre. « Je sais ce qui s'est passé. À moi aussi, votre mère a dit des choses terribles. C'est pour cela que je me suis couchée. Je ne voulais pas la revoir. Mon Dieu, je suis la cause de tout. J'aurais dû vous dire la vérité. J'aurais dû vous prévenir. Au lieu de cela, je vous ai menti, je vous ai dit que j'étais malade. » Florence était assise sur le lit. Un bras nu de Daniel reposait sur ses jambes et le peintre le caressait avec amour. Seule, la veilleuse placée au-dessus de la tête du lit éclairait la chambre. Dehors, on entendait le vent mugir. « Vous m'aimez ?» demanda Florent. « Comment pouvez-vous me le demander encore ?»« J'ai besoin que vous me le disiez. »« Florent, je ne vous aime pas ?» Daniel devint blanche. Son bras monta jusqu'à la taille de Florent, la serra. « Florent, je ne vous aime pas, je t'aime !» Dans ces derniers mots, elle avait mis tant de chaleur, tant d'intimité, qu'il se sentit rougir jusqu'au cou. « « Je t'aime aussi, » dit-il en se dégageant pour mieux étreindre la jeune fille. Soudain, il la lâcha. « Qu'est-ce que vous avez, Florent ? Vous n'avez rien entendu ? Non ? Il me semble qu'on a marché. » Daniel était encore trop ému par le long baiser que venait de lui donner Florent pour prêter attention à quoi que ce fût d'autre. « Ne me lâchez pas !» murmura-t-elle. 2 heures s'écoulèrent, durant lesquelles les jeunes gens ne prononcèrent pas une parole. Côté contre côté, les mains dans les mains, les cheveux se touchant et se mêlant, il n'était point possible d'être plus unis. À certains moments, ils frissonnaient. Ce n'était pas un contact qui les bouleversait ainsi, mais un sentiment de communion tel qu'une seconde, il leur semblait qu'ils ne formaient, comme l'homme et son ombre, qu'une seule et même personne. Les gestes de l'un, l'autre les faisait. « Éteignez !» dit Daniel dans un souffle. Florent eut alors l'impression qu'il avait dit lui-même « éteignez » et quand il leva la main, il lui sembla qu'elle ne lui appartenait qu'à demi, qu'il levait également celle de Daniel. Ce fut la raison qu'il fit qu'il ne trouva pas la petite poire sur le bouton de laquelle une simple pression eut amené l'obscurité. Il dut se dégager, soulever Daniel pour chercher cette poire sous l'oreiller, ce qui rompit le charme. « Quelle heure est-il donc ? » demanda la jeune fille. « C'est impossible, il est déjà 00h30. »« Florent, il faut que je vous gronde, nous n'avons pas été sages ce soir. »« Nous n'avons pourtant rien fait de mal, nous sommes simplement restés l'un près de l'autre, sans parler, sans même nous regarder, heureux de nous aimer. » « À quelle heure viendrez-vous demain ? Pas trop tard, je vous en supplie. Nous n'avons même pas parlé de ce que nous devions. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Je voudrais que vous veniez de bonne heure, que pour une fois, vous ne travailliez pas. »« Et Zivavitsi ? Je me moque de Zivavitsi. Il s'agit pourtant de mon avenir. »« Oh, votre avenir n'a aucune importance. Il n'y a que l'amour qui compte, n'est-ce pas, Florent ? Un amour comme le nôtre. » Le peintre était tellement habitué à voir tout s'incliner dès qu'il avait parlé de son avenir qu'il ne put se défendre contre une certaine stupeur. Puis, comprenant brusquement que Daniel avait raison, il se pencha au-dessus d'elle en prenant appui sur le bois du lit et il l'embrassa longuement. « Cette fois, je m'en vais, » dit-il en se relevant. « À demain, ma chérie, dormez bien. » « Le temps me semblera interminable sans vous. »« Mais non, vos yeux vont se fermer dans un instant. » Il avait déjà une main sur la poignée de la porte. De l'autre, il lui envoyait des baisers en souriant pour atténuer ce que ce geste, fait à 2 mètres de distance, pouvait avoir d'un peu ridicule. « Faites bien attention à vous. » Il baissa la poignée de la porte. « Je ferai attention. Ne craignez rien, chérie. » En disant ces mots, il poussa la porte, mais elle résista. Ne se rendant pas encore compte qu'elle était fermée à clef, il ajouta « Bonne nuit !» Il poussa la porte plus fort. Elle résista encore. « Qu'est-ce que cela signifie ? » fit-il en changeant de ton. « La porte est fermée ? » demanda Daniel en se soulevant. « Oui, je ne comprends pas, » continua le peintre sans se souvenir qu'un instant auparavant, il avait eu des tremblements dans la voix. On dirait que cette porte est fermée à clé de l'extérieur. Il la frappa du poing. « Ne frappez pas, Florent, vous allez réveiller les voisins. Il faut quand même que je m'en aille. »« Le faut-il vraiment, Florent ? Restez, nous montrerons à votre mère que notre amour est bien plus grand qu'elle ne l'imagine. »